Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Pila Intika et Elisa Régoulet. Elles sont notamment autrices de 3 livres, Le guide féministe de la grossesse, Filles garçons, même éducation et 30 discussions pour une éducation antisexiste. Cela fait beaucoup de matière, donc nous avons échangé sur différents sujets, que ce soit l'éducation non genrée, le mom-shaming, ce que je vais appeler le dad-blessing, la culpabilité des mères, la bienveillance des parents entre eux, en fait, sur la parentalité quand on a des valeurs et qu'on veut essayer de les appliquer. Souvent, quand j'échange avec des gens que je connais ou sur les réseaux, on parle d'éducation non genrée et je m'aperçois que cette notion de genre, finalement, elle n'est pas forcément la même pour toutes et tous. C'est quelque chose qui n'est pas aussi diffusé qu'on pourrait le penser quand on est sensibilisé au sujet. Donc ma première question, ça sera de demander, c'est quoi le genre ? Je vous souhaite une très bonne écoute.
En fait, quand on parle de genre, on parle du fait que c'est les rôles filles-garçons, femmes-hommes, mère-père, que ça, c'est des constructions sociales qu'on reproduit tous les jours. Et en fait, c'est en interrogeant les stéréotypes nocifs, les idées reçues, les injonctions qui sont liées au genre, qu'on peut constater en fait qu'elles créent justement de ces inégalités entre les filles et les garçons. Et le problème, c'est que finalement, c'est ces inégalités en fait qui limitent leurs possibilités et leur liberté du choix. Et ça, finalement, dès la naissance, en fait, ou même avant.
Donc, si je comprends bien, le genre, c'est... on peut naître avec... on est fille ou garçon, on est avec un sexe, ou potentiellement autre chose, d'ailleurs, il y a des intersexes. Mais finalement, le genre n'a rien à voir avec notre sexe.
Non, en fait, effectivement, le genre, c'est une construction sociale. Donc, c'est l'idée qu'en fait, on est biologiquement avec un sexe, mais qu'ensuite, on performe un genre, et que ce genre, donc, il est féminin, masculin, neutre, tout ce qu'on veut d'ailleurs, et qu'effectivement, il est absolument dissocié du sexe biologique. Donc, pour beaucoup de gens, on se construit de manière normative, on se construit de manière genrée et normative par rapport à notre sexe biologique. Donc voilà, mais ce n'est pas du tout une obligation, c'est une norme, mais justement c'est une norme qui, je pense, aujourd'hui est de plus en plus interrogée et le sera de plus en plus. Ouais.
Ok, et quand c'est que ça commence, cette distinction de genre au niveau de la parentalité, de la grossesse et de la parentalité, quand les enfants arrivent, avant, quand on en parle, comment ça se passe?
Je pense que ça commence déjà dès la grossesse, en fait, dès le projet de famille, en fait. C'est qu'on a tous des projections par rapport à ce que c'est d'être une fille, ce que c'est d'être un garçon, ce que c'est d'être une mère ou un père d'une fille ou d'un garçon. Et c'est surtout au moment, si on sait pendant la grossesse qu'on attend une fille ou un garçon, que ça commence réellement. C'est-à-dire qu'on commence à projeter, on va se dire, oh, je vais acheter quel genre de body, de quelle couleur, comment je vais décorer la chambre, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants, avec mon enfant plus tard, etc. Donc ça peut déjà commencer là. Après, bien évidemment, c'est bien renforcer ces idées quand le bébé est né, parce qu'en fait, après, le bébé arrive au monde social, donc du coup toutes ces idées sont renforcées par la collectivité, quoi, enfin par les gens qui sont autour de nous, et les chercheurs, eux, ils confirment en fait que c'est déjà à partir de 18 mois que les bébés font la distinction entre, ils ont une notion de distinction entre les filles et les garçons. C'est des chercheurs qui ont fait des recherches à la crèche, qui ont pu constater justement qu'on ne traite pas les filles et les garçons de la même manière dès tout petit âge, en fait, même bébé, en fait. On ne leur parle pas de la même manière, on ne répond pas à leurs besoins de la même manière. Et du coup, c'est effectivement, même dans la parentalité, on a des idées de comportement d'un bébé-fille ou d'un bébé-garçon qui sont parfois différents. On pense que les garçons sont plus agités ou qu'ils ont besoin plus de leur mère que les filles. Et ça, c'est donc, ça commence très, très, très tôt, en fait. Parce que ces idées, En fait, c'est des idées reçues qu'on reproduit tout le temps dans le parole, dans le langage, dans nos dialogues, etc. Donc, du coup, c'est difficile de se rendre compte à quel point inconsciemment ils font partie de notre vie quotidienne, en fait.
Vous parlez de comportements attendus filles-garçons, mais justement, c'est quoi ces comportements exactement? Qu'est-ce qui est attendu pour les filles, pour les garçons? Quels sont les comportements stéréotypés qui sont attendus?
Bah, souvent, on porte nous-mêmes en fait des constructions genrées, et normées, quoi. Donc, du coup, on est nous-mêmes. Hommes, femmes, et on porte cette charge en fait qui est associée aux attentes de comportement, aux attentes sociales liées au féminin, au masculin. Et donc ces attentes, sans s'en rendre compte en fait, on les reproduit et on les transfère sur nos enfants, c'est la plupart du temps. Donc on attend d'une petite fille des choses différentes d'un petit garçon, et souvent c'est lié à toutes les caractérisations classiques du féminin. Donc le féminin, c'est plutôt quelque chose qui est situé du côté de la sagesse, du calme, du langage. On attend beaucoup plus de capacités langagières de la part des femmes que de la part des garçons, de la manière dont on exprime nos émotions. On attend beaucoup plus de ça d'une fille que d'un garçon. Et le garçon, on attend beaucoup plus de choses de l'ordre de la performance physique, mais de la force, de formes de courage aussi, voilà, de pas pleurer, donc du coup on réprime aussi beaucoup l'expression des émotions chez les garçons, alors qu'on l'encourage énormément chez les filles. Et ça, c'est des choses ce dont parlait Pila sur les études qui ont été faites dans les crèches, c'est des choses qu'on voit très très vite, c'est-à-dire qu'alors que même que l'enfant à 18 mois ne sait pas du tout lui-même s'il est une fille, un garçon ou quoi, mais en fait on attend déjà de lui ou d'elle des choses différentes. Les adultes projettent sur eux des attentes différentes en fonction de leur sexe. Donc de manière très simple, il y avait un exemple qui disait, par exemple, un petit garçon, s'il veut pas mettre son manteau, en fait on va lui mettre son manteau. On va de toute façon, donc on est dans un rapport où on va agir, rentrer dans l'action tout de suite, forcer, ne pas attendre d'explications de pourquoi, de comment, on va mettre le manteau. Dans un rapport physique comme ça, alors que la petite fille, si elle ne veut pas mettre son manteau, on va attendre d'elle qu'elle explique pourquoi elle ne veut pas mettre son manteau, qu'elle exprime son mécontentement, son opposition, etc. Donc on vous voit, c'est des exemples très... très simple et que sans aucune intention de... C'est beaucoup plus subtil que de dire, ah ben les filles, elles vont jouer à la cuisine et les garçons, ils vont jouer au ballon, quoi. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que ça passe dans des choses tellement subtiles et tellement invisibles que c'est là que ça se joue, en fait. Pas que dans des choses très, très grossières comme les filles, on va leur donner des poupées et les garçons, on va leur donner des ballons. Parce qu'en fait, à la crèche, par exemple, c'est beaucoup plus mélangé et beaucoup plus neutre au niveau du genre. Enfin, les jouets sont à disposition des enfants, tous les enfants, etc. Donc, ça passe vraiment dans des comportements totalement inconscients.
Et c'est aussi, par exemple, quand on parle des crises des enfants de cet âge-là, quand ils ont 2 ans ou un truc comme ça, souvent, quand on parle des garçons, on parle des colères, comme si c'est des émotions justifiées en quelque sorte. Et pour les filles, on parle des caprices. Et ça, c'est quelque chose que les études montrent, qu'effectivement, on n'a pas le même comportement. Enfin, mais on n'accepte pas les mêmes choses, en fait, de la part des filles qu'on accepte de la part des garçons. Et ça, c'est tout à fait lié aux idées reçues liées au genre, en fait.
On a tendance, de manière générale, à mettre tout ce qui est du côté du masculin, à le mettre du côté de l'action, et donc d'une forme de positivité, enfin, donc de l'action, de la force de caractère, de la force physique. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très actif, alors que du côté du féminin, on est beaucoup plus dans une forme de passivité, c'est de la tristesse, c'est de la comédie, c'est toujours des choses qui sont toujours beaucoup plus teintées négativement, en fait, aussi. Hein.
Et c'est ça, en fait, qui est problématique. C'est que, en fait, vu qu'on renforce pas par exemple, la verbalisation des émotions chez les garçons, bah, du coup, ils restent dans ce rôle genré, enfin, dans ces stéréotypes, en fait, de se dire, bah, en fait, je sais pas m'exprimer, en fait, je sais pas m'exprimer mes émotions. Et pareil pour les filles, elles se privent, enfin, de activités physiques, par exemple, parce que elles entendent ça partout, de dire qu'en fait, les garçons courent plus vite que les filles, que, enfin, les filles peuvent pas faire de foot. Enfin, je donne des exemples complètement, enfin, un peu exagéré, mais c'est vrai, c'est la réalité aujourd'hui qu'en fait, c'est ce type d'idée reçue sur le comportement des filles ou des capacités des filles et des garçons, on renforce cette idée que les capacités ne sont pas les mêmes, en fait. Mm-mm. Et c'est pas vrai.
Non. Et en fait, là où il faut comprendre l'enjeu de la parentalité, c'est qu'en fait, ces petites filles et ces petits garçons, ce sont les futurs pères et mères que nous sommes. Et donc, c'est pour ça que aussi, après, dans l'exercice de la parentalité, eh ben, on est aussi ces hommes et ces femmes-là, et que les hommes peuvent avoir plus de difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent ou leurs peurs ou leurs angoisses, alors que nous, on est beaucoup plus dans l'expression de tout ça, et puis dans l'empathie, enfin tout ça, en fait, ça crée les rôles sociaux des hommes et des femmes d'aujourd'hui, quoi.
Je peux que confirmer, j'ai moi-même eu, pour citer Hermione Granger, j'ai moi-même eu la capacité émotionnelle d'une petite cuillère pendant beaucoup d'années de ma vie, jusqu'à une thérapie, si tu veux, et où je me suis rendu compte qu'en fait, mais il y a plein d'émotions à vivre, même quand on est un mec, hein, les gars, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Non, mais c'est moi, ce que je comprends, c'est que au-delà, comme vous le disiez, Elisa, des choses assez grossières comme les poupées pour les filles et les camions pour les garçons, il y a tous ces sujets qui sont dans l'attitude, en fait, qui sont dans le comportement et qui sont ancrés en nous. Et donc, c'est nécessaire d'aller nous interroger nous-mêmes sur ces sujets-là. Et pour le coup, comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de ces catégorisations, déjà pour nous-mêmes et puis avec l'entourage proche?
Bah, déjà, en fait, je pense qu'il faut s'informer. Enfin, il faut avoir conscience que ces constructions sociales existent, c'est la base, en fait. Si on reste dans l'idée qu'on veut nous enlever nos filles et nos garçons et qu'il n'y a que le sexe biologique, etc., bah, on est déjà perdu. C'est-à-dire qu'il faut accepter quand même que c'est des constructions sociales qu'on peut donc interroger et après, justement, se poser des questions par rapport au fait que pourquoi un garçon ne pourrait pas jouer avec une poupée, pourquoi il peut jouer avec une poupée à la crèche mais pas à la maison. C'est quand même, enfin, pourquoi? Et en fait, se dire que, questionner en fait des injonctions qu'on a nous appris aussi par rapport à notre éducation et de se dire qu'est-ce que ça pourrait nous faire en fait si on achète une poupée à notre garçon. Est-ce qu'on est confronté par quoi en fait et comment est-ce qu'on peut trouver justement le courage d'aller à la rencontre d'une sorte de honte sociale en quelque sorte qui est liée à ce type de choix, quoi. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de se dire qu'en fait, c'est la liberté du choix de nos enfants qui est important. C'est justement le futur, comme disait Elisa, qu'en fait, c'est les futures mères et pères, les futures femmes et hommes. Et si on veut changer ces rôles-là plus tard, il faut commencer très tôt. Hein. Il faut commencer à agir dès l'enfance, en fait, et dès la naissance, parce qu'on a souvent aussi cette idée qu'en fait, les différences liées au genre arrivent à l'école et arrivent à la collectivité, mais en fait, ça, oui, c'est renforcé forcément dans les institutions, ça c'est évident, mais que nous aussi, on peut jouer un rôle actif dès la naissance pour essayer de déconstruire justement des stéréotypes qui sont nocifs pour nos enfants et qui limitent leurs possibilités, quoi.
En fait, je pense qu'il faut arriver à se dire, évidemment, qu'être une fille ou un garçon, biologiquement, quoi, ne dit rien a priori sur la personne. C'est quelque chose qu'il faut se répéter aussi, d'ailleurs, en tant qu'adulte, hein, tous les jours. Mm-hmm. De dire, c'est pas parce que je suis une femme que, ou c'est pas parce que je suis un homme que. Mais c'est vrai que je pense que essayer d'élever son enfant en se disant être une fille ou un garçon socialement, enfin biologiquement plutôt, ne dit rien de l'être social qu'il est, quoi, justement. Donc il peut et que en fait ce qu'on veut développer chez elle ou chez lui, c'est ses capacités, c'est ses capacités émotionnelles, c'est ses capacités intellectuelles, c'est ses capacités motrices. Enfin, c'est tout en fait qui fera qu'ensuite il pourra faire des choix qui le rendront ou la rendront heureux ou heureuse. Quoi. C'est l'idée de se dire qu'une poupée, en fait, par exemple, pour prendre l'exemple de base, ça développe l'empathie. C'est tout. Ça développe pas une qualité féminine, ça développe pas la mère. Ça développe juste l'empathie. C'est l'idée de s'occuper d'un petit être, de lui donner à manger ou de prendre soin. C'est une qualité humaine essentielle. Ce n'est absolument pas réservé. Ça devrait pas être réservé aux femmes ou aux petites filles. Donc, et c'est pareil pour tout le reste en fait. Donc, c'est juste leur donner la possibilité de le plus de choses possibles, le plus de possibilités, enfin, le plus d'activités possibles ou le plus de jeux possibles ou le plus de, pour que eux-mêmes fassent les choix qu'ils ont envie de faire. Dans la parentalité, c'est vraiment c'est une question qu'il faut se poser tout le temps en fait, de se dire j'ai une petite fille ou j'ai un petit garçon, et de se dire voilà, est-ce que je ferais pareil si c'était une petite fille, est-ce que je lui dirais la même chose, est-ce que je lui proposerais la même chose, est-ce que je de toujours mettre ça en perspective, parce qu'effectivement nous-mêmes on agit, on a des réflexes genrés, tout le monde. Interroger ça, c'est un exercice de tous les jours, quoi, de se dire est-ce que je réagirais pareil si c'était une fille, moi j'ai un garçon, mais est-ce que je réagirais pareil si c'était une fille, est-ce que je lui dirais la même chose, est-ce que je l'encouragerais de la même manière, et c'est tout le temps quelque chose qu'il faut nourrir, quoi.
Et moi, je pense qu'en fait, ça nécessite aussi quand même une bonne dose de courage. Parce que, en fait, quand on va au parc avec un garçon qui joue avec une poupée, bah, tu sais tout de suite qu'en fait, tu vas avoir des réflexions sexistes, etc. Enfin, en fait, il faut se préparer à ça. En fait, il faut avoir des arguments pour défendre l'égalité. Il faut aussi, être suffisamment fort et forte pour accepter qu'en fait les réflexions sexistes ne vont pas disparaître. C'est justement pour montrer à l'enfant, les enfants nous écoutent aussi, hein, dès tout petit âge en fait, donc du coup c'est important de verbaliser aussi devant les autres qu'en fait qu'on peut justement jouer avec une poupée parce que ça développe les qualités de empathie qui sont bien utiles plus tard dans la parentalité, que tu sois un père ou une mère, et même dans les relations intimes, affectives, etc. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi, comme disait Elisa, c'est qu'on est effectivement des résultats de l'éducation qu'on a reçue, nous. Donc, on vit dans ce monde qui est patriarcal, qui a des normes, etc., qui nous limite en quelque sorte. Et du coup, en fait, c'est quand on sent une sorte de gêne, que pourquoi ça me gêne, en fait. C'est une très bonne question, en fait, de se poser, de se dire... Pourquoi ça me gêne si mon fils joue avec une poupée, hein? C'est quoi le... Pourquoi ça me gêne? Pourquoi c'est dérangeant? Et en fait, il faut aller vers cette émotion-là, en fait, se dire justement pourquoi j'ai appris que ce soit gênant, pourquoi j'ai appris que ce serait dérangeant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon enfant? Et je pense que là, en fait, c'est un terrain où on peut créer de dialogue, justement, et on peut avancer. Et c'est important d'avoir le courage d'y aller, parce que c'est justement pour le bien-être de nos enfants, mais de nous tous, en fait.
Mais complètement. Et l'exemple, il y a l'exemple de la poupée que vous citez, et l'exemple du parc est super intéressant, parce que ça rejoint ce qu'Elisa évoquait et ce que vous dites. Moi, j'ai une situation particulière où moi, je me suis mis à observer le fait que quand on est dans un parc et qu'il y a des filles et des garçons qui jouent, donc moi, ma fille a 2 ans et demi, donc on est sur des tranches de 2 à 5 ans, quand elle va au parc généralement, on observe aussi tout de suite que très tôt, les comportements de prise de l'espace des petits garçons qui peuvent, moi je pense que ça peut s'apparenter peut-être à du mansplaining, mais à leur petite échelle de petits garçons, quoi. Mais les comportements de prise de l'espace des garçons et des filles qui restent un petit peu en retrait, c'est aussi très vite mis en place, quoi.
C'est quelque chose qu'on voit plus tard aussi dans la société, oui. C'est que en fait les femmes, comment dire, apprennent à donner la place aux hommes, et les hommes apprennent, ils ont appris à prendre de la place. Et effectivement, ça commence dès au parc, en fait. Mais c'est comme ça rejoint à l'idée dont on a déjà parlé du fait que, en fait, on accepte certains types de comportements plus chez les garçons. C'est-à-dire que si les garçons sont un peu agités, courent dans tous les sens, en fait, on a on a l'habitude de se dire qu'en fait, ça fait partie du comportement d'un garçon. Tandis que si une fille court dans tous les sens et on se dit, bon, en fait, il faut que tu te calmes un petit peu, sois sage, etc. En fait, on essaye de les mettre à leur place des très petit âge, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a appris nous aussi. C'est que même nous, en tant que femme, en tant que mère aujourd'hui, c'est difficile parfois de se dire, bah, mais moi aussi, j'ai le droit de prendre la place, quoi. J'ai le droit parce qu'en fait, on vit dans un monde où justement, on nous désigne une place, un rôle où il faut qu'on reste. Et si on veut sortir de ce rôle, ben en fait, les structures et de la société n'acceptent pas ça forcément. Et c'est pareil pour les garçons. C'est-à-dire que les garçons qui sont sensibles, par exemple, ou qui savent comment dire exprimer leurs émotions, etc. Bah, on les traite des chouchottes, on leur dit bon, enfin, t'es une fille, etc. Comme si c'était quelque chose de négatif d'ailleurs, hein, les qualités de fille, malheureusement. Enfin, comme si tout ce qui est qualité dit féminin, c'est quelque chose qu'on doit éviter à tout prix, quoi. Enfin, comme si c'était quelque chose qui est pas bénéfique pour les garçons, tandis que pour les filles d'ailleurs. Quand eux, ils ont quand même plus des qualités dites masculines, du coup, c'est plutôt bénéfique pour elles. Là aussi, il y a un gros souci, hein, c'est que pourquoi on pense comme ça que les qualités qu'on considère comme féminines, pourquoi ça serait pas bénéfique pour les garçons? Et ça rejoint à cette idée ou du fait qu'on a quand même cette idée derrière qu'en fait, les garçons qui montrent des comportements plutôt qu'on considère féminins, qu'on a une peur de homosexualité hein, derrière. Enfin, c'est quelque chose qu'on se dit qu'en fait, un garçon insensible va devenir homosexuel, ce qui est complètement ridicule comme idée. Mais c'est quelque chose qui est, je pense, dans la conscience collective, en fait, cette idée qu'en fait, cette peur de... que le garçon ne va pas jouer le rôle de garçon, comme c'est désigné dans la société, quoi, enfin dans les idées en tout cas.
L'exemple que vous donnez, ça me fait aussi penser au fait que quand une fille adopte des comportements reconnus socialement comme ceux attribués aux garçons, on a en français une expression qui est garçon manqué, c'est-à-dire qu'on va être capable de dire à une fille, bon, t'es quand même un peu un garçon, ça va. Par contre, l'expression inverse n'existe pas.
Tout à fait.
Manqué n'existe pas. On va être en effet dans du chouchotte, femmelette, c'est-à-dire ça va être insultant et rabaissant. Ouais. Alors que mine de rien, garçon manqué, c'est quand même de bon, tu fais pas ce qu'on attend de toi, mais ça va, tu te rapproches quand même du garçon.
Garçon manqué n'est pas du tout une insulte socialement, c'est une expression extrêmement sexiste. Enfin, ça c'est très
tout
clair.
À fait.
Mais c'est pas du tout une insulte. C'est-à-dire les gens communément disent aux filles. Ah, mais t'es un vrai garçon manqué, ça veut dire t'es casse-cou. Ça veut dire t'es une fille casse-cou, tu vois, voilà, tu te comportes comme un garçon, quoi, voilà. Mais ce n'est pas du tout une insulte, quoi. C'est alors qu'effectivement, comme disait Pila, un garçon qui va se comporter comme une fille, on lui dira pas t'es une fille manquée, ça n'existe pas. Mais en revanche, on lui dira voilà, t'es une chouchotte, qui pour le coup sont des propos extrêmement rabaissants, quoi.
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, on accepte chez les filles, par exemple, qu'elles s'habillent plus un peu comme des garçons, mais chez les garçons, on ne l'accepte pas du tout. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense que le garçon manqué, c'est limite comme un compliment, c'est-à-dire, t'es un peu un garçon, tu vas bien, bien gérer ta vie dans la société, que tu sois un peu à casse-cou, justement, c'est parce que tu vas aller loin, etc. Et en fait, c'est quelque chose que moi, je me rends compte, même aujourd'hui, j'ai 38 ans, et en fait, c'est aujourd'hui que en fait, je me rends compte que les compliments qu'on m'a donné par exemple quand j'étais jeune en disant que ah oui mais t'es un peu comme un garçon donc c'est enfin voilà c'est comme si c'était un compliment pour moi et c'est comme ça que je me suis dit mais en fait c'est comme ça que j'ai intériorisé la misogynie moi aussi c'est-à-dire que je me dis ah oui en fait les qualités un peu à tes fifi t'aimes bien les princesses etc comme si c'était quelque chose de négatif et c'est enfin on est face à ce type de problématique tous les jours tout le temps nous-mêmes et c'est ça qui est assez ce que je trouve hyper enfin, fertile et super intéressant, c'est que quand on a des enfants, quand on devient parent, bah, en fait, justement, on commence à questionner ces trucs à travers l'éducation, quoi, de nos enfants. Et c'est incroyable ce qu'on apprend tous les jours. Et comme vous disiez, Cédric, que dès qu'on ouvre cette porte qu'on devient conscient, en fait, de ces constructions, bah, du coup, c'est difficile de le fermer parce qu'on le voit partout, en fait. Ça traverse toute la société, le langage, les comportements et toutes les choses complètement banales de la vie quotidienne, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que quand même, pour que les gens qui écoutent ces podcasts, qu'ils n'ont pas peur, en fait, de nos livres, par exemple, c'est que nous, on voulait toujours... On voulait dans nos livres vraiment créer un ton qui n'est pas du tout jugeant, qui est justement bienveillant, parce que nous, on n'est pas des personnes qui connaissent tous, enfin, on ne connaît pas tout sur les questions de genre, sur l'éducation, parce que c'est quelque chose, une sorte de parentalité parfaite ou une mère parfaitement féministe, ça, c'est des notions qui n'existent pas, et que nous, c'était très important justement qu'on était dans une démarche où on pose des questions. Et qu'on essaie de chercher de l'information, mais à aucun moment on dit qu'en fait, voilà, c'est le chemin à prendre, c'est soi qu'il faut prendre, etc., pour arriver à une sorte de parentalité féministe parfaitement, etc., parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est parce qu'on est face à ces problématiques tous les jours, et nous aussi, du coup.
C'est quelque chose qui a déjà été dit dans ce podcast, c'est le fait que, à date et à ma connaissance en tout cas, personne n'a de recette magique ou miraculeuse pour faire ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, en France, il faut bien reconnaître qu'on part d'assez loin pour se dire que le simple fait de se poser la question, c'est déjà un grand pas en avant, je trouve.
C'est sûr que je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui n'a vraiment la recette miracle pour lutter contre les inégalités de genre chez les enfants, chez les adultes, enfin dans la société. Donc ça passe évidemment par la loi beaucoup, hein, aussi. Ça passe par des changements de loi, en France, le sujet, c'est les congés paternité en ce moment, mais ça passe par tout un système de lois qui permet quand même de réguler, d'équilibrer. Hein. Mais ça passe, je pense, essentiellement par l'éducation. Et là, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans notre travail, c'est de dire qu'en fait, ces constructions-là, on peut essayer de les bouger en éduquant, en prenant conscience des propres rôles que nous-mêmes on joue, quoi, et en éduquant nos enfants, en essayant de les interroger. Et c'est vrai que je crois que la parentalité nous met vraiment face à nos propres constructions genrées, à nous, et à nos propres limites, quoi, dans la manière dont on se comporte, dans la manière dont on se construit, dans la manière dont on est en couple avec nos amis, dans le travail. Enfin, tout ça est réinterrogé, quoi, je trouve, vachement dans l'expérience de la parentalité, quoi. Donc c'est une interrogation qu'il faut déjà, voilà, avoir conscience de ça, s'interroger là-dessus, se poser des questions, se demander pourquoi on agit comme si avec nos filles ou nos garçons, et nous-mêmes, pourquoi on agit comme ça en tant que femme, en tant que mère, ou en tant qu'homme, en tant que père. Enfin, c'est déjà un travail énorme, et nous, c'est ce qu'on encourage, parce que après, le secret de qu'est-ce qu'il faut faire et comment changer les choses, etc., c'est une interrogation ouverte, quoi, qu'il faut continuer à travailler, quoi.
Oui, complètement. Alors, vous donnez des pistes quand même, et des pistes plutôt sympas à mon sens dans votre livre, donc je conseille à tout le monde de lire. Et il y en a notamment une sur le langage et les expressions qu'on peut utiliser. Donc on a déjà parlé de garçon manqué, mais il y en a d'autres comme « fais pas ta princesse »,« t'as tes règles ou quoi ». À chaque fois, nous vous proposez des alternatives. Mais aussi, c'est ce que j'apprécie particulièrement, une piste de réflexion, comme par exemple « fais pas ta princesse », ça serait « arrête de faire ta délicate », donnerait au masculin « fais pas ton prince ». Et on s'aperçoit que ça n'existe pas dans la langue française. Et donc, j'apprécie particulièrement ça, parce que ça vient, vous cherchez à faire interroger les gens. Et c'est ce qui fait que j'aime énormément ce livre, parce que c'est pas une liste de décrets, de choses à faire et à ne pas faire, c'est vraiment une interrogation, une introspection que vous amenez chez les gens. Et même dans les expressions les plus communes qu'on peut entendre, tout simplement le fait qu'à la place de dire « oh putain », qui est une insulte sexiste, on peut dire tout simplement « oh merde voilà, ». Parce qu'on dit tous des gros mots, c'est bon les parents, on va pas faire semblant. Voilà.
On est d'accord.
À choisir plutôt dire « oh merde » parce que ouais. Putain, ça reste une insulte sexiste. Mm. Ouais. Et dans les autres contenus, une question qui est vraiment aussi qui... J'aime beaucoup la réponse que vous apportez dans votre livre, mais je préfère vous poser la question ici. Comment est-ce qu'on peut gérer les activités, notamment les lectures? Je sais que moi, par exemple, ma fille, on a différents niveaux aussi parce que ma fille est métisse. Donc, on cherche aussi à lui retrouver des représentations de petites filles racisées, des choses comme ça. Donc, nous, on filtre beaucoup, mais elle a aussi une vie collective, elle a aussi des grands-parents, des oncles, des tantes, des choses qui traînent, et des documents, des jouets et des livres qui traînent comme ça quand elle va chez eux, ou des fois qui rentrent dans la maison. Comment est-ce qu'on peut gérer justement ces contenus très stéréotypés?
Ben justement, en fait, comme vous disiez, c'est que en fait, les livres sexistes sont partout, les livres de jeunesse, et on ne peut pas les éviter. C'est-à-dire que dans la collectivité, ils vont... Les enfants sont face à ces livres qui renforcent des idées, des stéréotypes, des normes, etc. Des rôles des parents complètement stéréotypés, etc. Mais en fait, je pense qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ces livres-là parce qu'on peut les lire d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on peut faire une lecture critique. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec mes deux enfants, j'adore lire des livres même sexistes parce que finalement, en fait, ça donne une possibilité de leur poser des questions, de dire, souvent quand on lit des petits ours bruns que mes deux enfants ont adoré, qui sont complètement sexistes et qui me font mal au cœur de les lire, mais en fait, ça donne une possibilité justement de poser une question. Est-ce que c'est toujours la mère qui fait la cuisine? Est-ce que c'est toujours la mère qui gère le pot? Est-ce que c'est toujours le père qui rentre tard le soir du travail? Tout ce genre de choses, en fait. Et du coup, ça crée une dynamique un peu différente. Et je pense que à côté des livres antisexistes qui existent heureusement aujourd'hui pour... où la représentation des filles et des garçons et des mères et des pères de ces rôles-là sont beaucoup plus vastes. C'est donc à côté de tous ces livres-là, on encourage vraiment de faire une lecture critique des livres qui ont des messages sexistes. Parce que je pense qu'en fait, les enfants, ils ont une capacité aussi de réflexion assez incroyable, et je pense que ça crée aussi des très bonnes discussions avec les enfants pour dire mais pourquoi en fait le rose ce serait que pour les filles, qu'est-ce que t'en penses toi, et voilà.
De toute façon, de manière générale, c'est pas possible d'interdire des livres, c'est même assez dangereux.
Ouais, c'est pas le but du tout.
Malvenu et dangereux. Donc, du coup, l'idée d'avoir une bibliothèque sélective avec que des ouvrages féministes, c'est très dogmatique au final. Enfin, c'est très dangereux et ça correspond pas du tout à ce qu'on a envie d'enseigner à nos enfants. En fait, c'est beaucoup plus intelligent pour eux, je pense, comme le disait Pila, de leur apprendre aussi, de leur inculquer la manière dont on peut avoir un regard critique sur les choses, et donc une lecture critique, quoi, que eux-mêmes après ils puissent être autonomes dans la lecture le jour venu et lire eux-mêmes des choses et se dire tiens, là dans ce livre en fait la maman elle fait tout mais moi ça se passe pas comme ça chez moi, il y a plein de et que eux-mêmes ils puissent ensuite développer un sens critique de quand ils voient des choses sexistes ou normées et les interroger après dans l'autonomie, quoi. Enfin, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Enfin, moi, il n'y a pas longtemps aussi, mon fils, il m'a ramené de l'école un petit loup. Moi, je ne connaissais pas les petits loups, mais alors, j'ai été servie, quoi. J'ai eu un petit loup va chez le médecin. Enfin, il y avait tout. Il y avait vraiment la totalité. Donc, c'est la maîtresse. Petit loup est malade à l'école, donc c'est la maîtresse, évidemment. La maîtresse appelle la mère. La mère vient tout de suite parce qu'elle ne travaille pas. Elle prend le petit loup, elle l'emmène chez le médecin. Le médecin est un homme vieux, enfin un vieux sage barbu, qui le soigne. Enfin, et petit loup est soigné. Et à la fin, c'est le père qui rentre du travail et qui vient voir petit loup et ils font des blagues tous les deux parce que petit loup lui raconte le médicament magique que le médecin lui a donné, quoi. me suis dit, ah là, il y a vraiment la totale. Enfin, tu vois, j'avais rarement vu un truc qui regroupait tous les éléments. Mais c'est super intéressant parce que du coup, on l'a lu, on a vachement discuté. Mais voilà, et lui en plus, la pédiatre que nous, on va avoir, c'est une femme. Donc tout de suite, il m'a dit, mais moi, mon médecin, c'est une femme. Je dis, bah, bien sûr, oui, parce qu'il y a plein de femmes.
Ça existe aussi.
Voilà, et du coup, eux-mêmes, on n'a même pas besoin de parler parce qu'eux-mêmes, dans la réalité, ils voient que ça ne se passe pas comme ça. Enfin, de toute façon, je pense qu'en 2021, enfin voilà, il y a plein de médecins femmes, il y a plein de maîtres d'école, il y a plein de papas qui font à manger, enfin voilà, et donc du coup d'eux-mêmes en fait, c'est juste intéressant d'en parler avec eux, mais eux-mêmes ils ont déjà une idée que ces représentations-là, elles sont un peu caricaturales quoi.
Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que en fait les normes existent, même si on ne peut pas fermer les yeux, en fait, de cette société. On est quand même des êtres sociaux. Enfin, on vit dans une communauté. Donc, du coup, c'est important aussi que les enfants comprennent qu'il y a des stéréotypes qui existent, qu'il y a des normes qui existent et qu'il y a des gens qui y croient et qui pensent que c'est comme ça qu'un garçon doit être ou c'est comme ça qu'une fille doit être. Et c'est pas dangereux en soi. Hein. C'est juste qu'en fait, je pense qu'après, il faut pas laisser ça là. C'est-à-dire qu'il faut après avoir une discussion, de leur poser des questions pour que les enfants retrouvent les réponses eux-mêmes aussi. Parce que comme vous avez dit tous les deux, quoi, que en fait, finalement, c'est les enfants qui ont cette réflexion déjà que en fait, non, en fait, mon médecin, ce n'est pas un homme. Quoi, et que moi, j'ai un maître à l'école, par exemple, ou des trucs comme ça.
Enfin, ce qui est compliqué, c'est aussi de la prise de conscience, au-delà c'est la prise de conscience de l'importance du sujet aussi. Parce que c'est vrai que le sujet du genre, comme on disait au début, des constructions sociales, etc., c'est déjà, on ne sait pas toujours ce que c'est le genre, on ne sait pas toujours c'est que la différence entre le genre et le sexe biologique, on ne sait pas. Et en fait, souvent, dans toutes ces choses-là, comme c'est des normes qui sont extrêmement intégrées, reproduites inconsciemment, etc., on interroge aussi souvent l'importance du sujet. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve en face de gens ou qui disent « mais enfin, oui, bon, il y a plus grave, quoi. Enfin, il y a quand même plus grave sur Terre. Enfin, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des guerres. Enfin, il y a toute une difficulté aussi de se saisir. Moi, je le vois à l'école avec les autres parents et tout. C'est vrai qu'il y a toute une difficulté de se saisir de l'importance, en fait, du sujet et de je pense que les gens, quand on leur parle d'injustice, d'inégalité entre les hommes et les femmes, je pense qu'ils comprennent que c'est grave. Mais si on leur parle du fait de jouer au foot, que laisser les filles jouer au foot, je pense qu'il y a une difficulté à faire le lien chez beaucoup de gens entre le fait d'encourager les enfants à faire tout ce qu'ils veulent au-delà des stéréotypes associés à leur genre et les inégalités graves, les violences envers les femmes qui sont faites ou envers les hommes. Les inégalités et les violences graves qui sont faites aujourd'hui envers les femmes ou les inégalités entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Il y a une difficulté à faire le lien entre ces deux sujets alors que c'est complètement lié. Enfin, c'est vraiment la ligne. Enfin, si on veut changer des choses, voilà, comme le disait Pila, il faut commencer par là. Ça passe par les filles doivent avoir le droit de jouer au foot et les garçons de faire de la danse classique. C'est comme ça qu'on pourra essayer de changer les choses sur les inégalités entre les hommes et les femmes.
Oui, et c'est ce qu'on dit aussi dans notre livre, c'est qu'on parle des inégalités des salaires, par exemple. C'est que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous que en fait ça devrait pas être le cas, mais en fait qui ne font pas justement le lien que c'est lié par exemple au congé, au moment quand on devient parent, que en fait ça commence là en fait et que on justifie justement l'inégalité salariale souvent à cause de congé maternité plus longue que le congé paternité, quoi. Et c'est comme ça qu'en fait, finalement, ça crée un énorme, enfin, il y a un énorme clivage, en fait, qui se crée. Mais en fait, on le prend comme donné, comme si c'est juste comme ça, en fait.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Enfin, quand on sait très bien qu'on peut l'interroger et on peut, il faut aller plus loin, il faut creuser très 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 loin et donc aller très 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 loin de, dans l'enfance déjà, de voir comment est-ce qu'on éduque nos enfants. Si on éduque nos petits garçons pour leur expliquer que vous pouvez jouer avec les poupées, vous pouvez être empathique, vous avez le droit de exprimer vos émotions, etc. Peut-être que plus tard, ils se posent des questions justement, se dire bah, « moi, je veux rester à la maison pour s'occuper de mes enfants, je ne comprends pas pourquoi ça serait que la responsabilité des mères, enfin, normativement parlant, quoi. » Et du coup, en fait, c'est effectivement, enfin, dans le livre, on essaye justement de créer ce lien entre les problématiques des inégalités entre les femmes et les hommes d'aujourd'hui. On essaie de montrer que, en fait, c'est finalement la source est déjà dans l'éducation inégale de l'enfance.
Mais complètement. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu sur les réseaux il y a quelques temps où on voit un enfant qui joue avec un poupon, qui s'occupe de lui, et une personne... Bon, c'est une scène jouée, hein, mais qui est malheureusement très, très réaliste, je trouve, et une mère qui vient interroger l'autre mère et qui lui dit « Mais t'as pas peur qu'ils deviennent... Enfin, tu vois, qu'à force, ils deviennent... Et la première mère qui lui répond bah, qu'ils deviennent quoi ? Un bon père, peut-être ? Mmh. Donc, bien entendu, j'aime beaucoup cet exemple parce que tout le monde sait que la personne qui vient interroger sous-entend de l'homosexualité alors que ça n'a rien à voir.
Et que
très sincèrement, pour l'avoir vécu, j'aurais bien aimé que je m'occupe d'un poupon quand j'étais plus petit. Ça m'aurait peut-être fait moins galérer aujourd'hui. Et vous avez beaucoup évoqué l'école. Et justement, c'est une des questions que je vais vous poser. C'est comment est-ce qu'on gère ce sujet quand l'enfant, donc on arrive à 3 ans et on a fait le choix d'une instruction à l'école. Comment ça se passe à l'école, parce qu'on peut rencontrer des choses assez impressionnantes. Un cas d'ailleurs, moi j'ai eu le cas juste à côté de chez moi de l'exemple que vous avez cité, Elisa, où on a expliqué à une petite fille qu'elle ne pourrait pas jouer au ballon parce que c'était pour les garçons dans la cour de récré.
Bah ça c'est dramatique, hein. C'est grave comme exemple en fait, parce que là effectivement on est dans la limitation de la liberté d'une personne, quoi. Enfin, ça c'est interdit, il faudrait pas faire ça. Mais ça c'est effectivement encore lié aux constructions sociales des rôles qu'on donne aux filles et aux garçons. Après ça peut être, il peut y avoir des exemples extrêmement graves comme ça. Après ça peut être aussi des exemples extrêmement banal, quoi, enfin très qu'on considère extrêmement, enfin très anodin et donc du coup pas très important. Mais en fait, l'idée c'est que je pense que il faut pas avoir peur d'aller discuter, par exemple, avec le maître ou avec la maîtresse pour expliquer ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre est-ce qu'ils ont, l'équipe ou le personnel de la petite enfance, est-ce qu'ils ont eu une formation par rapport à ces questions-là, est-ce qu'ils veulent en discuter, est-ce que pour leur... Enfin, parce que c'est quand même quelque chose que je ne sais pas si ça fait... Je crois que ça ne fait pas, en tout cas, systématiquement partie de la formation du personnel de la petite enfance, malheureusement, mais du coup, nous, en tant que parents, on peut justement aller activement parler avec le personnel. Et moi, par exemple, j'ai un exemple un peu pareil à vous raconter. C'est que mon fils, il a 6 ans, il est en CP. Et en fait, un jour, tout d'un coup, il ne voulait plus utiliser les feutres roses parce que quelqu'un lui avait dit à l'école qu'en fait, le feutre rose, c'est le rose, donc c'est que pour les filles. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, on va le priver de dessiner avec un feutre rose, c'est n'importe quoi. Et du coup, finalement, en fait, on a réuni les deux autres garçons qui ont eu cette discussion avec mon fils et avec les parents. Et en fait, on a eu une discussion pour expliquer que les couleurs n'ont pas de genre, que les couleurs appartiennent à tout le monde et qu'on a le droit d'utiliser de toutes les couleurs possibles, etc. C'est des messages extrêmement simples. Mais qui compte finalement beaucoup, je pense, pour les enfants, mais aussi pour le personnel de l'école. C'est que, en fait, c'est des... souvent, en fait, je pense qu'on se dit « Ah, ça va être trop compliqué, les maîtresses, les maîtres, ils ont autre chose à faire, c'est trop compliqué. » Enfin, ils ont beaucoup d'enjeux et on n'est pas en train de nier ça. On comprend très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression et beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques différentes à l'école. Mais en fait, c'est des messages qu'on peut passer très facilement. C'est-à-dire que s'il y a eu ce type de scène qu'une fille ne peut pas jouer au foot, bah, il faut avoir une vraie discussion ouverte avec les enfants pour leur expliquer que, en fait, ce n'est pas vrai. Les filles ont des capacités aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, pour jouer au foot? Deux jambes et une volonté, quoi. Enfin, en vrai.
On a beaucoup parlé de la partie éducation de l'enfant, de l'enfant, en fait. Je voudrais maintenant qu'on passe sur une partie où on se parlerait peut-être un petit peu plus des parents, et notamment comment est-ce qu'on peut, dès le projet bébé, aborder ces sujets-là dans le couple, parce que force est de constater que c'est quand même plus facile quand ça a été discuté avant qu'une fois que l'enfant est là.
C'est sûr que après une fois que l'enfant est là, on n'a pas le temps ni souvent l'énergie d'ailleurs de parler de ça. Il y a beaucoup de choses dont il faudrait parler avant que les enfants arrivent dans la vie des futurs parents, parce que les sujets sont immenses et je pense qu'on est très très peu préparé à zéro sujet d'ailleurs. Mais pour rester sur la question du genre, c'est vrai que ce serait super si on arrivait avec son ou sa partenaire à interroger déjà les attentes qu'on a par rapport au genre, les désirs, parce qu'il y a beaucoup de parents qui désirent avoir une fille ou un garçon ou qui ont des préférences, beaucoup, c'est très fréquent, et que déjà dans cette préférence, il y a quelque chose qui est dit. Parce que si tu préfères avoir une fille ou un garçon, c'est que tu imagines des choses que tu pourras faire ou que ton enfant pourra être si c'est une fille et pas si c'est un garçon. Donc tu nourris déjà des constructions genrées, et ça c'est le cas de beaucoup de parents, et c'est extrêmement humain d'avoir des préférences de genre. C'est beaucoup de parents se disent « Ah, moi je préfère une fille ou un garçon ». Donc ça passe déjà par là, parce que déjà dans cette préférence, il faudrait déjà l'interroger en se disant « Pourquoi je préfère ça ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je projette dans l'idée d'avoir une fille plus qu'un garçon ?» Ou l'inverse, est-ce que c'est ma relation ? Est-ce que c'est ce que je vais pouvoir faire avec lui ou elle ? Qu'est-ce que c'est ces projections, et est-ce qu'elles sont valables ? Donc tout ça, on pourrait l'interroger pour soi-même, dans le couple. Et se dire qu'est-ce qu'on attend d'un enfant, est-ce qu'on a des attentes genrées, puis dans le matériel qu'on achète, la manière dont on s'équipe, la manière dont on va préparer la chambre de son futur enfant, il y a déjà tout ça, hein. Enfin, une fois qu'on sait si c'est une fille ou un garçon, clairement, on n'achète pas les mêmes choses, on ne prépare pas la chambre de la même manière, on n'achète pas les mêmes vêtements. Donc, c'est le point de départ de tout le reste, évidemment. Ça, c'est vrai que je pense que on en parle très peu. Enfin, c'est difficile de mettre ça sur la table, et parce que je pense aussi que l'enfant est un tel révélateur ensuite des inégalités de genre que on n'a pas tout en tête avant. On a l'impression que ça va. D'ailleurs, souvent, on a l'impression que on est super équilibré dans son couple. On est très très on est très féministe. On a un partenaire très féministe et que tout va bien. Puis après, on a un enfant et on se dit. Ouais, non, en fait, c'est pas exactement ça. On se rend compte des déséquilibres, on les prend vraiment, je pense, on les prend quand même vraiment sur soi très fort, quoi. Quand on a un enfant, ça nous éclate au visage de manière très franche, quoi. Ce qu'on appelle la charge mentale, mais voilà, les déséquilibres qu'il peut y avoir aussi au sein du couple, dans les répartitions, la construction de notre propre personne, de notre propre être social en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que mère, en tant que père. Tout ça, c'est des choses qu'on prend très violemment dans la gueule, si je peux dire. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu tard de les interroger, parce qu'après, tu n'as plus vraiment le temps, mais c'est difficile avant d'en prendre conscience pleinement aussi. Donc, il y a un jeu d'équilibre qui est compliqué. C'est pour ça que s'informer, lire, s'informer sur tout ça, c'est hyper important, parce que ça permet d'avoir des clés. Nous, justement, c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans nos livres, c'est de donner des clés pour les futurs parents, hein, aussi dans le premier livre qu'on a fait sur la grossesse. C'est vraiment l'idée de préparer à ces questions-là avant parce qu'elles existent déjà et que du coup, s'y préparer avant, c'est aussi une manière d'en parler avant et d'y faire face mieux. Mais c'est très compliqué.
Donc moi, ce que je retiens pour le coup, c'est qu'en effet, il vaut mieux quand même évoquer les sujets avant et se questionner aussi sur pourquoi j'aurais envie d'avoir plus une petite fille qu'un petit garçon. À titre personnel, chez nous, pour donner un exemple, ma compagne souhaitait plus une petite fille parce qu'elle se disait qu'avec un garçon, elle ne saurait pas faire. Mmh. Parce qu'elle ne saurait pas à quoi jouer tout ça. Donc c'est extrêmement... et je pense qu'en effet, c'est OK. Après, il faut juste se dire que c'est OK et puis que de toute façon, on fera comme tout le monde, on fera comme on peut. Ouais. Et il y a ce côté-là aussi que vous évoquez qui est assez violent. C'est vraiment les charges qu'on peut rencontrer, cette charge mentale qui vient s'ajouter avec l'arrivée d'un enfant et qui vient re-questionner la répartition des rôles. Quelles charges on peut s'attendre à prendre dans le couple, qu'on soit la mère, le père ou le coparent, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?
Je pense que déjà, vu que c'est la femme qui accouche, donc on pense que naturellement et biologiquement, la mère, c'est tout de suite comment lui donner à manger, comment changer la couche, etc., plus que le père. Enfin, c'est déjà, c'est dans l'idée, en fait, c'est vu que ça se passe physiquement dans le corps de la femme, on pense que, en fait, psychiquement, les mères sont plus préparées que les hommes. Quand c'est pas vrai, en fait, c'est que nous aussi, on apprend du zéro, en fait, comment allaiter ou donner le biberon ou changer les couches ou les porter dans la nuit quand ils pleurent, etc. Essayer de comprendre qui est cette nouvelle personne qui est arrivée dans le dans la famille. Et en fait, je pense que effectivement, ça, c'est complètement lié aussi à la loi, c'est-à-dire l'histoire de congé. C'est vu que les mères, ils ont un congé plus long. Qu'on justifie justement par rapport à l'accouchement et l'allaitement et ce type de choses. Du coup, on considère que ça devient la responsabilité de la mère. Et en fait, je pense que vu que depuis des décennies, c'est comme ça, du coup, c'est très difficile de l'interroger dans la vie quotidienne quand la loi et la société nous montrent qu'en fait, les rôles ne sont pas pareils, quoi. Et du coup, par exemple, si on choisit une option de l'allaitement, par exemple, du coup, effectivement, enfin, c'est la mère qui prend quand même la plus grande responsabilité de nourrir son enfant. Mais ça ne veut pas dire que le partenaire ou la partenaire ne pourrait pas être là. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi activement essayer de voir et avoir le dialogue, en fait, déjà, de se dire est-ce que tu te sens bien dans ton rôle, dans ta responsabilité, est-ce que tu voudrais que je fasse plus, qu'est-ce que je peux faire pour être là plus, etc. Par exemple, l'allaitement, oui, ça se passe dans, dans le contact physique entre la mère et le bébé, mais le partenaire est complètement capable de changer la couche derrière ou aller chercher le bébé du lit ou le coucher dans le lit après ou un truc comme ça pour que la mère puisse se reposer après. Et ça aussi, je pense qu'en fait, il faudrait, en général, je pense que si je peux me permettre, que les hommes, les futurs pères s'intéressent en fait à cette expérience. C'est-à-dire qu'en fait, l'allaitement, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais comme les mères et les pères, ils ne comprennent pas en fait à quel point c'est usant, à quel point ça use ton énergie et comme tu peux être vraiment fatigué et que l'accouchement, ce n'est pas rien, c'est une énorme expérience psychique et pas que physique. Et en fait, je pense qu'en fait, il faudrait que... il y a plus d'ouverture au dialogue, en fait, autour de ces expériences pour comprendre que les enjeux, justement. Et je pense que, comme dans nos livres, en fait, comme disait Elisa, dans notre livre, premier livre, Le guide féministe de la grossesse, on a mis en place, justement, des questions à se poser et à se poser dans le couple pour faciliter, justement, que plus tard, ça ne devient pas une surprise qu'en fait, une mère qui allait est complètement crevée, quoi, ou qu'on peut... on peut avoir une dépression après, etc. Que ça ne soit pas des surprises, en fait, c'est des possibilités qui peuvent arriver et qu'on n'est pas forcément obligé de, comment dire, rejoindre à cette idée que l'accouchement et devenir mère ou devenir père, c'est que du bonheur. Parce qu'en fait, on peut aussi avoir des émotions négatives, on peut être complètement, enfin, on est très fatigué, hein, qui crée aussi des idées
sombre par rapport à la parentalité, et ça devient compliqué, on peut se questionner, on peut regretter parfois, enfin, c'est une expérience extrêmement complexe, et plus on a l'information pour les deux parents, plus je pense que ça sera plus facile de faire répartir des tâches aussi.
Je pense qu'effectivement, de manière générale, on prépare pas du tout les pères. Mais ça, c'est très social et c'est très lié, encore une fois, au féminin, au masculin. C'est qu'on ne prépare pas les pères à l'expérience de la parentalité. On est relativement mal préparés, nous, en tant que mères. Donc, déjà, je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus, c'est vrai. Mais les pères, je pense que c'est carrément... Il y a rien, c'est complètement inexistant. Enfin, donc,
je confirme.
Voilà, donc du coup, je pense que c'est extrêmement dur pour eux de rentrer dans cette expérience-là, de s'y intéresser, parce qu'on ne les intéresse pas vraiment à ça. Et donc déjà, l'idée de se reposer sur la mère, elle est déjà ancrée en eux, en fait, avant même de rentrer dans l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette idée que de toute façon, comme on ne les intéresse pas beaucoup au sujet, on ne s'adresse pas beaucoup à eux, il n'y a rien qui est prévu pour les préparer concrètement. On les prépare pas à l'accouchement, on les prépare pas au premier jour, on les prépare pas au départ de la maternité, on les prépare à rien. Donc c'est vrai que bon bah il y a quelque chose qui les exclut un peu et qui fait que de base aussi ils se construisent avec l'idée que de toute façon il y a quand même un être qui est là et qui a l'air de tout savoir et que ça va être merveilleux, qui est la mère quoi. Donc il y a déjà un gap énorme qui se fait ici, qui est renforcé évidemment par l'inégalité en France dans les congés. C'est terrible parce que ça renforce ce gap. Enfin, la mère va rester à la maison, le père va repartir au travail, et donc on a un gap qui se creuse et qui ensuite est terriblement compliqué à combler, à rééquilibrer, quoi, parce que du coup on invite la mère très franchement à se spécialiser dans le sujet de la maternité tout de suite, et d'ailleurs tout de suite en donnant à nos filles des poupées et pas à nos garçons, enfin voilà. Donc déjà c'est tout de suite, on invite les mères à être les spécialistes du sujet, alors qu'on n'invite pas du tout les garçons et les hommes de la même manière à s'y intéresser. C'est pas sexy comme sujet, la parentalité, enfin ça fait c'est pas un sujet waouh, enfin tu vois, où tout le monde a envie de lire sur le sujet, de tout comprendre, etc. Non, en soi, on n'en fait pas un sujet social suffisamment important, je pense, alors que c'est un sujet passionnant. Hein, c'est un sujet absolument passionnant où il se joue plein de choses sur nous-mêmes, pour nos enfants, etc. Mais c'est vrai que c'est souvent relégué à une expérience un peu niaise, un peu bébête. Voilà, les parents, on est tous heureux, et extrêmement tabou, puisque effectivement, il y a ce tabou extrêmement pesant du bonheur de la parentalité, quoi, et du bonheur de la maternité, de la parentalité, qui est que de toute façon, vu que oui, ça peut être difficile, mais vu que c'est absolument merveilleux, ça fait tout oublier, quoi.
Et c'est profondément sexiste, en fait, de penser que les pères ne s'intéressent pas à ça. Je pense qu'en fait, il y aurait, enfin, si c'était socialement plus accepté, en quelque sorte, et heureusement qu'on va vers cette direction-là, que les pères puissent être intéressés par leur rôle de père, qui veulent justement s'intéresser par les questions d'éducation, de parentalité, etc. C'est sexiste, en fait, de penser que les pères ne s'y intéressent pas. Et en fait, je pense que dans le corps médical encore, après, je comprends très bien qu'ils ont des enjeux énormes dans les maternités, etc. Mais je pense qu'ils se prennent pas en considération que les pères jouent un rôle important aussi, hein, dès la grossesse. Et en fait, si on les exclut dès ce moment-là, en fait, bah, justement, comme disait Elisa, en fait, ça crée une inégalité dès le début. Et donc, du coup, effectivement, ça devient juste le territoire de la mère et qui est renforcé par les congés, par les normes de la société. Et qui, ça devient difficile, même dans la famille, si un couple a envie de faire différemment, c'est difficile d'aller à la rencontre des normes parce qu'en fait, c'est tellement fort par la loi, par les mentalités, partout en fait, que du coup c'est difficile d'avoir le courage de faire différemment.
Ben on le voit quand dans le cas des mères qui retournent au travail très vite, et des pères par exemple qui prennent des congés parentaux, t'as l'impression que c'est une révolution, quoi. Enfin, tu vois, t'as l'impression que c'est incroyable, quoi. On est sur des schémas qui défient toutes les lois possibles et imaginables. Donc le père, c'est une sorte de de Dieu qui arrête tout pour s'occuper de son enfant. La mère, c'est quand même pas hyper bien vu en général quand les mères repartent très vite au travail, ou c'est quand même un peu suspect. Enfin, mais il y a quelque chose qui est difficilement inversable dans la tête des gens, dans l'idée que la mère s'occupe de l'enfant reste et le père est un second parent en fait.
Et ce qui est en fait compliqué, c'est que en fait finalement, quand le norme est dans la société, on pense que les mères sont responsables. Donc toutes les questions qu'on peut avoir par rapport à l'éducation, par rapport à la parentalité, on les pose qu'aux mères. Et en fait, du coup, aussi tous les jugements, toutes les critiques sont dirigés vers les mères. Et dès que le père prend une initiative de changer la couche ou ramener la vache, dans des exemples complètement exagérés, mais c'est vrai parfois, que en fait quand il s'occupe de l'enfant pendant une journée, quand la mère doit travailler, on leur donne presque une médaille, quoi. C'est tellement contradictoire, parce que effectivement, et ça explique juste qu'on a cette idée de base, que c'est quelque chose de naturel et inné chez la femme de s'occuper de son bébé, de s'occuper de son enfant, de savoir quel type de purée tu vas faire, enfin voilà. Et comme si les pères, en fait, du coup, si eux, ils le font, genre, c'est un vrai enjeu, quoi. Et c'est drôle, parce que après, je pense que s'il y avait plus d'équilibre entre les mères et les pères par rapport à tout ça, je pense qu'en fait, il y aurait moins de dépression déjà chez les mères. Je pense qu'il y aurait moins des expériences sombres de la maternité, parce que je pense qu'effectivement, les mères sont souvent laissées assez seules, en fait, avec cette expérience. Et vu qu'on performe dans la société, que c'est que du bonheur, et que ça peut l'être, il y a beaucoup de mères qui adorent être enceintes, qui adorent accoucher, qui adorent allaiter, qui adorent ça. Et c'est pas du tout dire le contraire, c'est pas si noir et blanc. C'est de dire qu'en fait, justement, il y a d'autres types d'expériences qui existent, c'est toujours singulière. Toutes les femmes, et comme tous les hommes aussi, les futurs parents en général, devraient avoir le droit d'exprimer leurs propres émotions par rapport à leur parentalité, sans avoir peur d'être jugées ou d'être critiquées tout de suite, en fait. Et parce que nous, comme on l'a déjà dit, mais je le dis encore une fois, qu'une sorte de notion de bonne mère ou bon père ou parentalité parfaite, ça n'existe pas. Ça ne devrait même pas être le but. Et même parfois, si on regarde autour de nous, on a l'impression qu'en fait, lui, il sait tout faire très bien, ou elle sait tout faire de manière géniale et parfaite. En fait, je pense qu'on n'est pas dans l'intimité, en fait, des gens. On ne peut pas savoir, en fait... Parce qu'on performe, nous aussi, cette idée que « ouais, tout va bien, je ne suis pas du tout fatiguée, même si je suis crevée, en fait, je ne sais juste pas comment le dire, parce que j'ai peur qu'on va me juger si je dis qu'en fait, je suis au bout du rouleau et en fait, je ne sais plus quoi faire avec mon bébé, quoi. »
Vous évoquez un point super important qui est le juste après la grossesse, hein, le moment du postpartum, qui est quand même un sujet très d'actualité. Et je suis ravi que vous parliez aussi du côté psychique et de la santé mentale des mères, qui est quand même un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, des mères qui meurent de ça en France, donc c'est important de l'évoquer. En effet, le sujet que vous évoquez aussi dans un des encarts de votre livre, du jugement permanent des mères qui s'appelle le mum shaming, hein, c'est-à-dire que peu importe le choix que vous ferez, mesdames, de toute façon, il y aura quelqu'un pour vous juger. Mmh. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, autant dire qu'on s'en fout, finalement, puisque quoi qu'on fasse, ça n'ira pas. Du côté père, alors il n'y a pas de mot pour le coup, j'ai trouvé une expression, moi, que je vais appeler le dad blessing, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, c'est génial. Mmh, ouais. On prend un congé parental, on a un dieu sur terre, et je l'ai vécu, et en effet, alors je vais pas vous mentir, c'est agréable, mais on a un dieu sur terre, et par contre, si on retourne travailler vraiment, eh ben on est quand même le mec qui va au turbin pour nourrir sa famille, machin, oui, parce que sa femme s'éclate, elle fout rien de la journée, hein, on le sait tous. Mmh. Et le côté médaille, je vais lever un tabou tout de suite, non seulement on nous les donne, mais en plus au début, on les attend. Hein, les gars, faut pas se mentir, au début on les attend, on a changé une couche, on attend des applaudissements. non mais c'est, faut pas se mentir, c'est malheureusement ce qui se passe. On évolue ensuite, Et ce côté, moi, je me rappelle très bien un truc qui m'a marqué, c'était que quand j'ai commencé pendant mon congé parental à m'occuper seul de ma fille, quand je racontais une journée à un pote, il me disait « Oh là là, mon Dieu, mais je sais pas comment tu fais, mais c'est dingue. » Donc la journée de base, hein, c'est-à-dire je m'occupe de la petite, en même temps je réponds à 2-3 mails qui passent, je fais à bouffer, je fais les ménages, la journée quoi. Mais justement, un mec me répondait « Oh, mais c'est incroyable, là là, mais quelle journée de dingue tu as, mais je pensais pas. » Et quand j'en parlais à des mères, elles me disaient « Ouais, bon, enfin... » T'as une journée
c'est
de
la base.
Il y a rien de surprenant. Et pour revenir à ce que vous disiez sur ce que vous appelez dans votre livre le fléau du tout va bien, je trouve que ça, c'est vraiment un point aussi que vous évoquez qui est extrêmement important. Parce que, ouais, des fois tout va bien, et puis des fois tout va mal. Et puis des fois, ça va changer plusieurs fois en une minute, en une heure, en une journée. Et j'ai vraiment le sentiment que la parentalité, c'est montagnes russes, quoi. On peut passer d'un état à l'autre en un claquement de doigts.
Je crois qu'il faut, il y a deux sujets différents. Il y a le postpartum, hein, qui est un sujet grave, dont on pense qu'on va parler de plus en plus aujourd'hui, et c'est très bien. Et je regardais, on en parle dans notre livre. Je relisais ce matin le texte justement qu'on a écrit là-dessus. On parle aussi de la dépression des mères, et je pense que c'est un sujet qu'on va de plus en plus, et c'est super important, parce que je pense que ça concerne beaucoup, beaucoup de femmes, et ça concerne aussi des hommes, et on en parle très, très peu, mais là, on commence à voir vraiment le sujet comme un vrai problème social, et ça va prendre de plus en plus d'ampleur, et c'est super. Et puis après, il y a quelque chose qui est un sujet lié, mais qui est un peu différent, mais qui relève de la même acceptation, en fait, de la complexité de cette expérience-là, qui est qu'il y a une ambivalence dans le fait d'avoir un enfant, qui est, je crois, permanente. Il y a une ambivalence entre... le fait de l'aimer plus que tout, et d'avoir envie de l'étrangler parfois, ou qu'il disparaisse, quoi. Enfin, il y a une ambivalence entre le fait d'adorer cette expérience et parfois de la regretter, et de se dire franchement la vie sans enfant, c'était quand même pas mal. Enfin, et il y a vraiment le fait qu'il faut accepter. Je pense que c'est hyper difficile, mais il faut vraiment l'accepter comme le fait que ce soit en fait une complexité. C'est juste pas linéaire comme toutes les expériences de la vie, c'est pas tout génial ou tout horrible, c'est en permanence fait de ces deux sentiments-là, de genre j'ai envie de le voir, mais j'ai envie d'être seule, et que voilà, j'ai envie de, je l'aime très fort, mais en même temps j'ai envie qu'il parte en voyage pendant une semaine. et c'est tout le temps ça, et je suis, et de la même manière, voilà, je suis très heureux ou très heureuse, et la seconde d'après, en fait, tu peux être extrêmement déprimée ou te sentir coincée, ne pas arriver à avoir le temps qu'il faudrait pour développer les projets que tu as envie de développer, enfin, plein de choses, et en même temps ça rend évidemment extrêmement heureux aussi, et c'est une expérience géniale, et tout ça est tout le temps emmêlé, et c'est ce qui fait qu'on est humain, et que l'expérience est complexe, et que l'expérience est riche aussi, mais c'est difficile de ne pas se sentir coupable en tant que parent au moindre sentiment négatif, quoi. C'est difficile. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut parler pour déculpabiliser les parents de ressentir ça, parce qu'en fait, on le ressent tous, mais effectivement, socialement, c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est vrai qu'il n'y a que dans l'intimité, vraiment, avec tes amis proches ou ton partenaire ou ta partenaire, que tu peux vraiment évoquer ce genre de sujet. Mais sinon, comme ça, de manière basique, tout va bien. Oui, tout va bien, bien sûr, tout va bien. C'est génial. Enfin, c'est génial. Voilà. Enfin, il n'y a pas de place pour ce qui est de l'ordre du négatif dans ces expériences-là.
Et en fait, je voulais rajouter que pour notre livre Figaro sans même éducation, on avait interviewé un psychologue justement sur la culpabilisation des mères, et surtout la culpabilité qui est ressentie la plupart du temps par les mères et par les pères aussi, et disait qu'en fait à l'époque, en fait, on pensait que le menace vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il fallait qu'on protège nos enfants de quelque chose qui vient de l'extérieur, et qu'aujourd'hui, en fait, les parents et surtout les mères pensent que, en fait, c'est eux qui sont, c'est elles qui sont la menace, en fait. C'est que si on a des sentiments négatifs ou si on a une
on n'aime pas 100% tout le temps être avec notre enfant et qu'on ne donne pas la présence à 100%, qu'on ne les regarde pas tout le temps aux yeux et qu'on n'est pas tout le temps avec eux et qu'on regarde parfois notre téléphone ou un truc comme ça, comme si ça, en fait ça devient une menace et que ça menace le bien-être de notre bébé, ce qu'on ne veut pas. Et tout ce type de choses, en fait, c'est renforcé dans la société aussi par les idées dogmatiques qu'on peut avoir sur la parentalité. C'est de dire qu'en fait, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ça c'est mal, ça c'est bien, il faut être ci, il faut être comme ça. En fait, il faut juste, je pense, relativiser et de se dire qu'en fait, les conseils sont partout et sont de toutes sortes, en fait. C'est que comme on explique dans le livre que dans le mom shaming, justement, quand on culpabilise les mères pour tout, bah, on peut culpabiliser de, par exemple, de dire qu'en fait, ah, tu allaites toujours ton enfant, ou de l'autre côté, on peut dire, ah, tu as arrêté d'allaiter. En fait, les jugements sont complètement contradictoires. Et ça, il faut vraiment que chacun et chacune, hein, qu'on s'interroge nous aussi à quel point dans le langage, dans nos échanges, est-ce qu'on renforce cette idée-là? Est-ce qu'on renforce la culpabilité? Est-ce qu'on est dans l'ouverture? Est-ce qu'on est dans l'écoute? Parce qu'en fait, c'est très important pour que justement que les parents puissent, sans avoir peur d'être jugés tout de suite ou de se dire qu'on est vraiment des mauvaises mères ou des mauvais pères, qu'ils ont le droit de dire qu'en fait là aujourd'hui je suis fatiguée en fait et j'ai besoin d'aide par exemple, ou que là j'en peux plus, je me sens trop seule, etc. Heureusement qu'aujourd'hui il y a quand même des aides et qu'on peut trouver des thérapies, on prend justement plus en considération la dépression post-natale ou même prénatale, on le prend quand même en considération plus qu'à l'époque, et heureusement, mais on n'est pas encore là pour que ce soit, comment dire, qu'il y aurait un dépistage réel, que les gens, le corps médical soit formé pour ça, mais ça va venir, hein. Et tant mieux, mais je pense qu'on peut tous, nous, en fait, tous et toutes, participer à cette déculpabilisation de rôle de parent, parce que c'est extrêmement important pour le bien-être des parents, mais aussi pour le bien-être de nos enfants, je pense.
Non, c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de... Il faudrait encourager la bienveillance, en fait, des parents, enfin, entre eux, parce que c'est vrai qu'on parle... Enfin, et des femmes aussi, parce qu'on parle beaucoup de sororité aujourd'hui et de la bienveillance et des femmes les unes envers les autres, etc. Mais c'est vrai que parfois, on a la sensation que la parentalité, la maternité est un peu exsangue de ça, et que c'est un sujet un peu à part, quoi. Et les gens se jugent beaucoup, en fait. On se juge beaucoup en tant que parents. On se juge nous-mêmes et on juge malgré nous, hein. Je pense que c'est pas de méchanceté derrière ça, mais malgré nous, on juge aussi la manière dont sont parents les autres, et parce que c'est un territoire très dogmatique. Il y a beaucoup d'idées reçues, de dogmes, de genre les gens font ci, il y a la parentalité bienveillante, il y a les gens qui disent jamais non, il y a les gens qui disent toujours non, enfin c'est des trucs fous, quoi. Il y a des dogmes, quoi, de la manière dont on exerce sa parentalité, qui sont d'ailleurs toutes différentes ou parfois même contradictoires. Mais du coup ça, je pense, ça crispe beaucoup, et c'est tous ces guides de quoi faire, comment le faire, que dire, enfin, qui en fait, je pense, angoisse aussi parfois, et font qu'on a la tendance à se toiser, se regarder et se juger, là où en fait on devrait vachement s'entraider, en fait, hein, et en parler, se donner des conseils, se réconforter. Et essayer d'avancer, d'être bienveillants les uns envers les autres. Tous les parents, en fait, on fait tous, comme vous l'avez dit au départ, on fait tous comme on peut, quoi.
On fait tous comme on peut,
et on est avec tous nos propres limites, nos différences, c'est important, je pense, de s'entraider là-dedans, ouais.
Et de toute façon, en plus, c'est quelque chose qui a été rappelé dans le rapport des 1000 premiers jours de l'enfant fourni au gouvernement en septembre. Un des points qui revient le plus dans la partie enquête, c'est justement l'isolement des mères, à commencer par les mères, et des parents ensuite. Et quand on connaît notre espèce, ben en fait, c'est simple, on n'est juste pas fait pour ça. Donc, en effet, ne pas s'isoler, ça permet déjà, un, de pouvoir souffler potentiellement, passer la main, mais aussi, si on est regroupé avec des gens avec, où il y a une certaine honnêteté, on va dire, de communication, on va vite se rendre compte qu'on galère comme les autres, en fait. C'est tout. Et que c'est OK. On va arriver au bout de cet entretien. Avant de finir, je voudrais juste parler du fait que vous sortez un nouveau livre au mois de mars. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, sans trop spoiler, sans voilà, qu'on soit un petit peu dans l'attente, un petit teasing?
C'est un livre qui s'appelle 30 discussions pour une éducation antisexiste et qui est un livre qui rassemble des conversations fictives que nous avons écrites, qui partent d'expériences que nous avons vécues ou d'expériences qu'on nous a racontées ou de choses que nous avons entendues. Mais qui sont réécrites, donc plutôt fictionnelles, et qui parlent en fait de la manière dont on peut répondre aux injonctions sexistes concernant l'éducation de nos enfants. Parce que on en parlait au début, mais c'est quelque chose dont on nous a beaucoup parlé, c'est-à-dire une fois qu'on parle beaucoup de la prise de conscience, mais une fois qu'on a pris conscience de tous ces fondements, de toutes ces constructions sociales et des fondements théoriques en fait du genre, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien, dans les situations banales de la vie, comment on répond à des remarques sexistes, comment on répond à nos enfants quand ils nous disent par exemple qu'ils peuvent plus dessiner avec un feutre rose parce que c'est pour les filles, enfin des choses qui se passent tous les jours en fait, et comment y répondre. Donc c'est quelque chose qu'on a tenté de faire en mise en situation réelle, en écrivant des conversations qu'on peut avoir du coup avec nos enfants, nos conjoints, nos conjointes, nos amis, nos familles, même des gens qu'on ne connaît pas au parc ou à l'école, auprès de, par exemple, avec le personnel qui s'occupe de la petite enfance, les instituteurs, les institutrices.
Oui, et notre idée, c'était aussi d'encourager des gens, des parents, d'en parler activement. C'est-à-dire de comment commencer à parler de l'éducation égalitaire, des enjeux, des inégalités dans la petite enfance, etc. Parce que c'est parfois aussi, on voulait montrer qu'en fait, on ne doit pas non plus toujours attendre le remarque sexiste pour lancer une discussion autour de ce sujet-là. C'est qu'on peut aussi activement, dans la vie quotidienne, de créer du dialogue autour de ça, en fait, avant que justement de se mettre dans un débat tout de suite, en fait. C'est très important, et je pense que si on prend si on comprend et on devient conscient justement de ces enjeux et de ces constructions sociales qu'on peut déconstruire et qu'on peut interroger, etc., je pense que c'est un sujet passionnant, et en fait ça devient un peu le sujet dont on a envie aussi de parler avec tout le monde. Mais effectivement, tout le monde n'est pas forcément réceptif. Et c'est ça aussi qu'on voulait montrer dans ce livre, c'est que comment argumenter en fait pour l'égalité dans les situations où on est face à une personne, par exemple, qui n'y croit pas, par exemple. Et c'était parce qu'on est parfois, je pense qu'on est assez tétanisé aussi par des remarques sexistes parfois, ça nous laisse sans voix, en fait. On ne sait pas quoi dire. Et du coup, on voulait développer justement, même pour nous aussi, de voir en fait comment est-ce que je pourrais argumenter de manière bienveillante, pourquoi c'est important de ne pas dire quelque chose de celui-là, par exemple.
Il me tarde de le lire. Merci beaucoup, Elisa et Pila.
Merci à vous.
Merci à toi.
Bonne journée. À bientôt.
Bonne journée.
À bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.